n'hésitez pas d'ailleurs à nous regarder aussi en vidéo sur rtl.fr. Ce sera sur les coups de 9h40.
Pour l'heure, il est 9h.
Le temps de tout comprendre, c'est le grand journal de 9h.
Et le grand journal de 9h, c'est avec vous, Sébastien Rouxel.
Et à la une ce matin, une quatrième nuit d'angoisse et de frappe au Proche-Orient. Les missiles iraniens ont fait au moins 8 morts en Israël, alors que l'armée israélienne a continué de bombarder Téhéran et des sites militaires iraniens. Un conflit qui sera au cœur du sommet du G7 qui s'ouvre aujourd'hui au Canada.
Bon, mais c'est quoi exactement le G7? Quels sont les pays qui y sont représentés? RTL vous l'expliquera.
Et j'ajoute que la France n'a pas encore aidé Israël à défendre son ciel pour l'instant. Elle n'a pas été sollicité, dit Emmanuel Macron.
Alors, la France pourrait-elle intervenir? Si oui, sous quelle forme? Le général Pélisse-Randry sera en ligne avec nous pour tout nous expliquer.
Pas de censure sur les retraites, mais peut-être sur le budget. Voilà en substance ce qu'a dit Jordan Bardella ce matin sur RTL, alors que le conclave sur les retraites s'achève en théorie demain. Le coup d'envoi du bac pour les élèves de terminale, il planche depuis 1h01 précisément sur les sujets de philo. Et puis le salon de l'aéronautique qui ouvre ses portes ce matin au Bourget.
Ah bon, au Bourget. Et pourquoi au Bourget, tiens? Pourquoi pas ailleurs? Ce sera la question pas si bête de Florian Gazan.
Et c'est le grand journal de 9h et c'est parti.
RTL matin jusqu'à 10h.
Le dictateur iranien s'est transformé en un assassin lâche qui tire délibérément sur les civils. Les habitants de Téhéran en paieront le prix. Voilà les mots ce matin du ministre israélien de la Défense après la mort d'au moins 8 personnes cette nuit tuées par des missiles iraniens. Une fois de plus, la défense antiaérienne n'a pas réussi à tous les intercepter. L'armée israélienne, elle, a frappé cette nuit des lanceurs de missiles iraniens et bombardé la capitale Téhéran. Frédéric Ancel, géopolitologue et spécialiste de la région, était ce matin l'invité de RTL. Pour lui, on est bien en train d'assister à une guerre.
C'est une guerre, je le dis depuis plusieurs jours, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait des frappes ciblées, des menées israéliennes en Iran, toujours visant ce processus de nucléarisation considéré par les Israéliens comme potentiellement mortel, en fait, exterminateur. Mais là, effectivement, c'est une vraie guerre. L'état-major a décidé d'en finir, alors non pas de manière définitive et totale, parce que ce n'est pas possible, mais en tout cas, d'en finir avec l'épée de Damoclès immédiate. Aujourd'hui, l'objectif d'Israël, il est clair, je le dis en un mot, c'est de gagner du temps, plusieurs années, peut-être plusieurs décennies, en attendant soit que le régime change, soit que un nouveau dôme de fer encore beaucoup plus efficace puisse protéger définitivement Israël. Et c'est ça tout l'enjeu de la guerre.
Voilà l'analyse de Frédéric Ancel ce matin sur RTL. Cette guerre, donc, elle sera au cœur du sommet du G7 aujourd'hui au Canada.
Mais au fait, c'est quoi le G7 et quels sont les vrais enjeux de ce sommet canadien? RTL vous l'explique.
Et on va voir ça avec vous, Bénédicte Tassard. Bonjour.
Bonjour à tous.
Qui suivez ce sommet pour RTL? D'abord, très concrètement, rappelez-nous ce qu'est le G7.
Alors, elle date de 1976 et l'initiative revient à Valéry Giscard d'Estaing. Notre président de l'époque crée le G6, les dirigeants des 6 pays les plus puissants de la planète, qui s'étaient déjà retrouvés l'année précédente, après le premier choc pétrolier à Rambouillet. À l'époque, il y a donc l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon. L'année suivante, on rajoute le Canada, c'est le G7. En 1998, arrivé dans ce cercle très fermé de la Russie, c'est le G8 qui redeviendra G7 en 2014. Moscou est exclu après l'annexion de la Crimée.
Bon alors Bénédicte, ça rentre, ça sort dans ce G7, mais qui sera présent aujourd'hui au Canada?
Beaucoup de nouveaux. Starmer pour le Royaume-Uni, Merz pour l'Allemagne, Ishiba pour le Japon et Carnet pour le Canada. Meloni et Macron surtout font figure de vétérans. Et puis Donald Trump signe son grand retour pendant son premier mandat. Souvenez-vous qu'il était parti très fâché du G7 de 2018. Il n'avait pas voulu signer le communiqué final. Mais parce que le monde change, d'autres dirigeants sont conviés à des réunions parallèles. Zelensky, bien sûr, mais aussi Lula pour le Brésil. Il faut inclure le Sud global dans les discussions.
Alors justement, les discussions, venons-en au fond, les enjeux sont énormes.
Au départ, on voulait discuter quantique et feu de forêt, mais priorité aux crises, l'escalade entre l'Iran et Israël et cette guerre d'Ukraine qui n'en finit pas sont les deux enjeux de ce G7.
Merci à vous Bénédicte Tassard, chef du service international de RTL, et vous nous ferez bien sûr vivre les temps forts de ce sommet.
Et à propos justement de l'escalade entre Israël et l'Iran, Emmanuel Macron compte défendre lors de ce sommet la position française, un appel à la désescalade, tout en rappelant le droit d'Israël à se défendre. Le chef de l'État a d'ailleurs répété depuis vendredi que nous aiderons l'État hébreu à se protéger face aux missiles iraniens s'il en fait la demande. Ça n'a pas été le cas pour l'instant.
Nous n'avons participé à aucune opération défensive depuis lors, parce que nous n'avons pas été sollicités. Nous appelons le plus vite possible à un retour des discussions de toutes les parties prenantes et à ce qu'aucune escalade ne soit conduite.
Voilà Emmanuel Macron qui s'exprimait hier depuis le Groenland avant son départ pour le Canada.
Mais justement, pourquoi la France serait-elle sollicitée ? RTL vous explique.
Et pour ça, nous sommes en ligne avec le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Bonjour mon général.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors déjà, où est la France dans cette région ?
Alors en fait, la France est présente donc au Proche et Moyen-Orient avec d'une part une base aérienne en Jordanie et une base interarmée qui est située donc dans les Émirats Arabes Unis. Et donc cela permet à la France de pouvoir être présente, de savoir ce qui se passe dans la région et ensuite éventuellement agir pour défendre les intérêts de la France dans la région.
Mais comment pourrait-on intervenir ?
Alors très concrètement, la France n'interviendrait que pour participer à la défense d'Israël. Et donc éventuellement, s'il y avait par exemple des missiles balistiques qui pouvaient menacer et qui pouvaient passer à proximité, la France pourrait intervenir. Il peut y avoir aussi, et ça c'est un élément qui est extrêmement important, l'échange de renseignements avec nos partenaires britanniques et américains dans la région pour par exemple déterminer les trajectoires ou les cibles potentielles, mais en aucun cas de vouloir en quelque sorte frapper sur le sol iranien. Et il ne faut pas oublier également, bien sûr, la présence de la Marine nationale, notamment en mer Rouge, et qui participe à la sécurisation générale du trafic maritime dans la région, trafic maritime qui est absolument essentiel pour notre propre économie.
Merci Jérôme Pellistrandi, général, pour ces quelques clés d'explication.
La France doit être aux côtés d'Israël, son rôle être la voie de la paix et de la désescalade. Ça c'est Jordan Bardella qui l'a dit ce matin sur RTL. Le président du Rassemblement National qui offre un petit répit à François Bayrou. Alors que les socialistes brandissent de nouveau la menace de la censure, si le conclave sur les retraites qui doit s'achever demain en principe n'aboutit à rien de concret, Jordan Bardella lui assure que ce n'est pas sur ce sujet que son parti votera la censure.
Le moment de vérité pour la censure, ça va être le budget. Nous attendrons évidemment le budget pour nous prononcer. Nous allons faire nos propositions. Nous avons déjà fait connaître nos pistes de 40 milliards d'euros d'économies parce qu'il y a beaucoup de Français qui entendent parler d'économies et qui ne conçoivent pas qu'on demande des efforts toujours aux mêmes pendant que les mauvaises économies ne sont pas chassées.
Donc si le budget ne vous convient pas à l'automne et donc dès la mi-juillet, parce qu'on connaîtra les grandes lignes de François Bayrou mi-juillet, là, il n'y aura pas d'ambiguïté, vous censurerez.
Évidemment que ce sera une ligne rouge qui aboutira à une censure du Rassemblement National et de ses députés à l'Assemblée.
Jordan Bardella, invité de RTL ce matin.
Ouais, cela fait maintenant plus d'une heure qu'il planche sans trop s'arracher les cheveux, en tout cas on l'espère. Les candidats au bac sont en pleine épreuve de philo ce matin.
Et ils ont jusqu'à midi pour rédiger leur dissertation ou leur commentaire de texte, une épreuve un peu redoutée par Mélissa qui la passe en ce moment à Champigny-sur-Marne au lycée Langevin-Vallon.
J'ai pris une nuit bien reposée, comme ça que je puisse réfléchir après pour les épreuves. C'est une matière où j'ai un peu du mal à aimer, car c'est un peu compliqué à réfléchir, à penser. Et moi, je trouve ça trop complexe. Et j'aimerais moins passer sur la justice. J'y vais à tête reposée, parce que me connaissant, je peux stresser très vite durant l'épreuve.
Voilà, propos recueillis par Hortense Crépin. Hortense, qu'on retrouvera dans quelques minutes à peine et qui nous donnera les sujets qui sont sortis tout à l'heure à 8h. Dans l'actualité également, ça fait la une du Télégramme, le patron de Renault en route vers Kering.
Et à l'instant, Renault qui perd plus de 5% à l'ouverture de la Bourse de Paris après l'annonce donc du départ de Luca De Meo, le directeur général de la marque aux losanges depuis 5 ans. Il quittera ses fonctions le 15 juillet prochain, annoncé hier soir le groupe dans un communiqué. Un départ surprise pour prendre a priori la tête du groupe de luxe Kering. Ce ne sont pas les voitures qui sont à l'honneur au Bourget, mais les avions civils et militaires. Le salon international de l'aéronautique, le plus grand au monde, ouvre ses portes aujourd'hui avec en toile de fond, bien sûr, les conflits en Ukraine et au Proche-Orient.
Mais pourquoi ce salon se déroule-t-il au Bourget ?
La question pas si bête de Florian Gazan.
Bonjour Florian.
Bonjour.
Le Bourget, j'imagine, parce qu'il y a un aéroport déjà.
Oui. Exactement. Surtout, c'est pour des questions de place, en fait. Et il en faut, hein, Thomas, pour exposer 150 avions. Le Salon du Bourget, c'est 217 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 31 terrains de foot.
Pas mal.
Une surface qui doit aussi être disponible longtemps avant, car ce salon, il faut 6 mois pour l'installer. Un gros investissement qui rapporte gros 400 millions d'euros de retombées économiques locales. Et puis, l'aéroport du Bourget, évidemment, c'est un un symbole de l'histoire de l'aviation française.
Et alors, il est né quand cet aéroport d'ailleurs ?
Eh bien, en 1914, grâce à un lieutenant de l'aviation française, Désiré Lucas. Il a d'ailleurs sa rue aujourd'hui à l'aéroport. Lucas est chargé alors de chercher un terrain au nord de Paris afin d'y installer une escadrille chargée d'intercepter les avions allemands venant bombarder Paris. Il jette son dévolu sur une prairie à 11 km au nord de la capitale, entre Le Bourget et Duny, appelé alors Aéropolis, car c'est un projet de champ d'aviation. En un mois, tout est construit, tout est installé. En 1919, après la guerre, l'aéroport du Bourget est conservé, agrandi, et il devient le premier aéroport civil de Paris, le seul jusqu'à l'ouverture d'Orly en 1961. Voilà pourquoi c'est au Bourget que Charles Lindbergh a atterri en 1927 après sa première traversée de l'Atlantique, et aussi Adolf Hitler en 1940 après l'invasion de la France. C'est d'ailleurs grâce aux célébrités, si je puis dire, que le Bourget a survécu.
Pourquoi aux célébrités ?
Parce que dans les années 60, en fait, on a décidé de la construction de Roissy-Charles de Gaulle, qui est à quelques kilomètres de là, et donc la disparition du Bourget avait été planifiée en 1972, mais le développement de l'aviation d'affaires et des jets privés a sauvé l'aéroport. Mieux, c'est aujourd'hui, avec 55 000 mouvements d'avions par an, le premier aéroport d'Europe pour les VIP, les VRP, les Very Rich People, et le PSG aussi, puisque c'est là que les Parisiens prennent l'avion quand ils vont jouer à l'extérieur. L'heure de vol, quand on part du Bourget, c'est entre 2000 et 10 000 euros. On peut y atterrir 24 heures sur 24, mais pas décoller après 22h15. Et à part quelques rares chefs d'État qui sont sur une liste établie par le ministère des Affaires étrangères, star ou pas, tout le monde est soumis au contrôle de sécurité avec présentation obligatoire du passeport. Et s'il n'y a pas, demi-mour, c'est demi-tour. Voilà.
Bon, et si vous avez des questions, tiens, vous aussi, n'hésitez pas à nous les envoyer, 64 900 avec le mot matin. Et je suis sûre que Florian
avec plaisir
se fera un plaisir de vous répondre chaque matin. Merci beaucoup, Sébastien.
Avec plaisir.
La météo, Louis Baudin, pour les avions, ciel dégagé, comme on dit.
Ah oui, ça se dégage. Ça se dégage, effectivement, hein, condition idéale pour pratiquer l'avion aujourd'hui. C'est vrai qu'on a encore des nuages sur la Normandie, un petit peu sur la région Rhône-Alpes, ou encore en Franche-Comté. Mais petit à petit, tout ça va disparaître pour laisser le soleil s'imposer très largement. Juste quelques nuages pour faire beau près de la Normandie ou encore dans le Nord-Est. Ça veut dire sans conséquence, hein, pas de risque de pluie, sauf dans les Alpes du Sud et sur le relief Corse, où là, on aura peut-être une averse en toute fin d'après-midi. Attention au Mistral qui soufflera encore dans la vallée du Rhône jusqu'à 80 km/h. Ça va être désagréable, hein, avec la chaleur qui va se renforcer dans ces régions du sud, puisque les températures attendues iront de 19 à 22 degrés près de la Manche, 23 à 26 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 27 à 30 degrés de nouveau dans la moitié sud. On ira même jusqu'à 31 degrés à Perpignan, 32 à Montpellier.
Merci beaucoup Louis, ça va durer toute la semaine.
Ça va durer toute la semaine, ça sera même de plus en plus chaud pour atteindre un pic probablement entre vendredi et samedi prochain.
Merci beaucoup Louis Baudin. Dans un instant, le débat.
Le débat, on n'est pas toujours d'accord avec Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste, qui est avec nous en studio ici à Neuilly, et Robert Ménard, qui est en sa mairie de Béziers dans l'Hérault. On a pas mal de sujets à voir. On va parler de la suppression de la Légion d'honneur pour Nicolas Sarkozy. On va parler également du bac philo, parce que ça y est, les sujets sont tombés, les élèves sont en train de plancher. Les premiers doivent même déjà être en train de sortir, hein, puisque au bout d'une heure, on a le droit de rentrer à la maison. Et même si Louis Baudin fait une tête bizarre, et on va vous faire repasser le bac, tiens, tous les deux, Louis, tous les trois, même Louis Baudin, Anne-Charlène et Monsieur Ménard. À tout de suite sur RTL.
Amandine Bégaud et Thomas Soto, c'est RTL Matin.
Dragon, sur l'île de Burk, où tuer un dragon est un rite de passage, un garçon va faire un choix inattendu.
Je suis le premier viking qui veut pas tuer de dragon.
Plutôt que de combattre, il va nouer une amitié qui va changer leur monde.
Croque-mou, t'inquiète, je vais rien te faire.
Envolez-vous dans cette aventure spectaculaire.
T'es prêt mon grand ?
C'est parti !
Dragon, actuellement au cinéma, avec RTL.
Impact à réparer, un pare-brise à remplacer. Avec Carglass, c'est simple, vous choisissez l'heure et le lieu qui vous conviennent le mieux. Et oui, vous pouvez choisir de venir en centre, mais on vient aussi chez vous. Et même sur votre lieu de travail, c'est où vous voulez. Chez Carglass, la solution la plus proche de chez vous, c'est aussi chez vous. Et jusqu'au 20 juin, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors, prenez vite rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous gratuitement au 3044.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Cuisine Xina présente la cuisine à 2990 euros avec le plan 3D offert.
Super ce plan, on se projette bien là.
Ouais, je te vois déjà ranger la vaisselle.
Ah, on doit pas avoir le même plan.
Xina, des offres qui ont tout compris à la vie. Voir conditions sur xina.fr.
On n'est pas toujours d'accord. Le
débat du 9-10.
Et on est ensemble comme chaque jour, bien sûr, jusqu'à 10h. On n'est pas toujours d'accord et face à face ce matin, Anne-Charlène Bézina, politologue et constitutionnaliste. Bonjour Anne-Charlène.
Bonjour.
Robert Ménard, le maire de Béziers. Bonjour Robert.
Bonjour à vous deux, à vous trois.
À nous trois. On va commencer avec la philo. Ça y est, ça fait presque une heure et quart maintenant que les élèves sont en train de plancher sur cette épreuve de philo du bac. Il est 9h15 pile. On a donc officiellement le droit de vous donner les sujets. On va retrouver Hortense Crépin tout de suite en direct d'un lycée de Champigny-sur-Marne. Bonjour Hortense.
Bonjour à tous.
Alors, dites-nous tout.
Alors, voie générale, c'est parti. Donc, je vous rappelle que les candidats ont le choix entre deux sujets de dissertation ou une explication de texte. Voie générale, sujet numéro 1, notre avenir dépend-il de la technique ? Ou sujet numéro 2, la vérité est-elle toujours convaincante ? Sujet 3, explication de texte, un texte de John Rawls, théorie de la justice de 1971. Voie technologique, sujet numéro 1, sommes-nous libres en toutes circonstances ? Sujet numéro 2, avons-nous besoin d'art ? Sujet numéro 3, explication de texte. Texte d'Adam Smith, théorie des sentiments moraux, 1759. Vous avez 4 heures, enfin un peu moins maintenant, puisqu'il est 9h15.
C'est 3h45.
2h45. Merci beaucoup à vous, Hortense, un sacré sujet. Notre avenir dépend-il de la technique ? La vérité est-elle toujours convaincante ? Sommes-nous libres en toutes circonstances ? On appelle quel candidat, à votre avis ? Ménard ou Bézina ? Tiens, Bézina, Anne-Charlène, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ça ? Notre avenir dépend-il de la technique ?
Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'en fait aujourd'hui j'aurais choisi le sujet sur la vérité, ouais, en tant que juriste, bon, toute cette question sur les fake news,
la toujours convaincante.
Voilà, la reconstruction d'un discours, l'histoire, il y a tellement de choses à mobiliser, mais je pense que ça m'aurait complètement tétanisé quand j'ai passé le bac. Donc d'ailleurs, j'avais choisi la sécurité du commentaire de texte, ouais, et je pense, ouais, que je l'aurais à nouveau choisi parce que j'adore Rawls. Alors par contre, j'ai eu une note catastrophique, donc ça c'est aussi un message de bon courage à tous parce que j'ai quand même eu un bac avec mention très bien et ça s'est très bien passé pour moi par la suite, mais j'ai eu 8 sur 20.
Ah, donc on peut avoir mention,
peut
très, bien
avoir mention très bien avec une note catastrophique en philo. Voilà.
Avoir 8 en philo.
Et ne prenez pas le commentaire de texte.
Quand même.
Robert Ménard, vous auriez choisi quoi, vous, comme sujet ?
Oh, mais quand tu ne savais rien en philo, tu prenais l'explication de texte.
Bah, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Mais ne le prenez pas. Hein.
C'était la garantie. Moi, j'ai eu du mal à avoir le bac, je vous le dis tout de suite et sans aucune mention. Mais j'étais bon en philo parce que, ensuite, j'ai fait philo à la fac d'ailleurs. Alors, moi, j'aurais pris la vérité est-elle toujours convaincante parce que malheureusement, oui, non. Ça. Enfin, on en sait tous les quatre autour des micros, que si c'était convaincant, le monde ne serait pas où il est. Ensuite, il faut avoir des références philosophiques.
C'est un peu court quand même comme réponse. Vous étayez comment votre réponse
Et vous étiez comment ? Vous avez encore une citation à donner, ça avait été... Moi, j'en ai plus, j'ai oublié tout ça.
Il ne m'en reste absolument...
Vous avez triché, Anne-Charlène Bézina ?
Non, mais je dis des antisèches. Oui, antisèches, c'est pour tricher, pardon. Ah oui. Moi, j'avais des petites fiches Bristol sur lesquelles Non. Ah, vraiment pas. Non, la juriste que je suis l'a toujours été, je vous l'assure, Robert. Je n'ai commis aucune inégalité en 37 ans.
Non, mais c'est vrai qu'avec ces fake news, tout ça, on ne manque pas d'exemples, en tout cas, de l'actualité. Et l'autre jour, on avait un prof de philo qui nous disait, même s'il faut des références, des citations, illustrer son propos via des faits d'actualité, ça peut servir.
Bien sûr.
Ouais, mais il faut avoir des citations quand même de philosophes, c'est quand même ça. Et honnêtement, moi, à l'âge que j'ai tout oublié. Il n'aurait rien resté de mes études de philosophie.
Moi, j'aurais pensé que vous auriez choisi « Sommes-nous libres en toutes circonstances ?»
Ah, j'ai pas entendu celui-là. Sommes-nous libres en toutes circonstances ? Malheureusement, non. Mais là aussi, il faudrait étayer, comme dit Thomas. Mais on le fera ensemble. Je lui demanderai, tiens. Thomas, êtes-vous libre en toutes circonstances ?
Ah, j'aimerais l'être. Mais entre le vouloir et le pouvoir, il y a parfois la mer. Que voulez-vous ?
Qu'est-ce qu'être libre ? Petite thèse,
c'est pareil,
synthèse.
C'est pareil, c'est pareil.
C'est Anne-Charlène.
On le garde.
Au-delà de ça, il vaut encore quelque chose ce bac. On rappelle aujourd'hui que depuis la réforme. Il y a quand même une partie d'abord en contrôle continu, 60% de la note, sauf erreur de ma part. Donc il y a déjà des élèves qui savent aujourd'hui qu'ils ont le bac avant quasiment même de passer les épreuves. Il vaut rien du tout, dit Robert Ménard. Vous êtes d'accord
Amandine,
avec ça ? Oui, Robert.
Amandine, oui. Quand j'ai regardé la réussite au bac l'an dernier, 91,2%. C'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible. C'est mentir aux gens. Non, mais c'est un vrai sujet. À force de donner le bac à tout le monde, 9 sur 10, ça ne veut rien dire. Vous entendez, vous discutez, vous avez cours de classe, dans une cour de récréation, vous apercevez bien que tout le monde ne peut pas avoir le bac, tout le monde n'est pas au niveau. On le donne à quasiment tout le monde et on les trompe, les gamins. On les trompe, on leur fait croire que ça y est, ils sont aptes à rentrer, à faire des études supérieures, et on voit bien que c'est pas vrai. La preuve, regardez les chiffres. À la fin de la première année d'études supérieures, à la fac ou dans des grandes écoles, et vous voyez comment ça s'effondre. Je veux dire, vous avez 10-20% de gens qui passent en deuxième année. On trompe les gens
avec
ça.
Anne-Charlène, pourquoi on n'accepte plus l'échec? Pourquoi l'échec est infamant? Tous ceux qui ont réussi dans la vie vous disent que les échecs, c'est important pour se construire. Là, on a l'impression que si on rate son bac, on a raté sa vie. Qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé là dans cette société?
Je sais pas vous répondre à cette question, parce qu'en réalité, c'est vrai que c'est une forme d'évolution de la société qui me semble tout à fait négative, et je rejoins Robert Ménard sur la première année. C'est vrai qu'on entre en amphi avec l'obligation de vérité de leur dire que 75% d'entre eux ne seront pas là l'année prochaine, et c'est vrai que je suis pas sûre que ce soit forcément la bonne conception de l'échec, comme vous dites. C'est-à-dire que repousser la sélection sans arrêt amène finalement à quelque chose d'encore plus rude. Moi, j'ai souvent des étudiants qui n'arrivent pas à trouver de Master 1 par rapport à des résultats qui sont difficiles. Et dans ce cadre-là, on a avancé avec finalement une conscience que ça fonctionnera pas. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Et puis, ça ne donne pas la méritocratie qu'on avait aussi. Je pense à nos grands-parents qui nous disent que le bac équivalait, enfin, même leur brevet équivalait à ce que nous, on fait en quatrième année de droit. Et je pense que c'est dommage, en effet, qu'on ait perdu cela.
Robert Ménard, vous vouliez ajouter
La semaine dernière, on parlait autour de ce micro des questions d'autorité, vous vous rappelez, avec les faits divers et tout. C'est ça. Aujourd'hui, on n'ose pas dire à un certain nombre de gens, mais peut-être que tu n'es pas fait pour faire des études, mais c'est pas si grave que ça.
Il y a plein de gens qui font des études et qui s'en sortent très bien.
Ah, oui, mais en même temps, attendez. Amandine, en même temps, moi, si on avait dit ça à un de mes enfants, ça m'aurait inquiété, je vous le dis. Je fais le malin en disant, ouais, finalement, un métier manuel, c'est aussi bien. Mais comme parent, ça m'aurait inquiété. Je sais pas comment vous réagissez, mais on a ça dans nos têtes en France. Si tu fais pas des études, tu réussis pas ou t'as pas réussi. Et en plus, par rapport à ce que dit Thomas, c'est une culture aux États-Unis. Tu rencontres un type, il n'hésite pas à te dire qu'il s'est planté dans tel ou tel moment de sa carrière. Et il dit pas c'est une catastrophe, il dit oh, au moins j'aurais appris ça et je referais plus la même chose. En France, un type te dit qu'il vient d'essuyer un échec, t'as juste pas envie de lui tendre la main et encore moins de l'embaucher ou de faire quelque chose comme ça. On a un rapport au succès étonnant dans ce pays.
Et un problème de formation et de réorientation, ça c'est très important de le dire. C'est-à-dire que bon, il y a eu des choses qui ont été faites avec la médecine, mais c'est pas suffisant. On ne réoriente pas assez ceux qui sont en échec, on ne leur apprend pas à faire autre chose, et je vous rejoins Robert Ménard quand vous dites on ne sait pas ce que c'est que ne pas avoir le bac, ou on n'a pas proposé d'autres filières, et ça c'est vraiment une carence à mon avis dans notre offre à nos jeunes.
Hortense Crépin, spécialiste éducation ici à RTL, est toujours en direct avec nous depuis ce lycée de Champigny-sur-Marne. Hortense, j'ai dit une petite bêtise sur le contrôle continu, c'est pas 60% mais 40% de la note, c'est ça?
Voilà, c'est l'inverse, 40% le contrôle continu et 60% constitué des épreuves écrites, donc à la fois le français que vous passez en fin de première et puis le reste des épreuves en terminale, absolument.
Merci beaucoup Hortense Crépin. Et petite précision, les corrigés seront à lire à partir de midi sur le site rtl.fr. Il y aura notamment la copie de Robert Ménard.
Et là aussi, peut-être de dire bien à tous ceux qui lisent que le corrigé ne fait absolument pas la note, hein, parce qu'on a tous fait ça, de se déprimer ensuite, mais ça ne veut absolument rien dire. Moi, je corrige des millions de copies, je donne des corrigés, je mets des 18 à des copies qui n'ont rien à voir avec le corrigé. N'oubliez pas.
Et elle a eu 8 en philo, elle a une pension très bien. Rappelons-le. Voilà. Pensez-y si vous avez un petit coup de mou dans les jours ou les semaines qui viennent. Il y en a un qui ne doit pas avoir trop le moral non plus, c'est Nicolas Sarkozy, qui a donc vu sa Légion d'honneur lui être retirée. C'est sorti au Journal officiel pour une raison simple, c'est que la loi prévoit que quand on a été condamné à un an de prison ferme de manière définitive, on perd sa Légion d'honneur. Robert Ménard, vous entendez bougonner.
Non, je le savais pas. Moi, j'ai la Légion d'honneur et je savais pas que si on était condamné à plus d'un an de prison, c'était automatique. J'en savais rien. Vous venez de me l'apprendre. Écoutez, moi, pour Nicolas Sarkozy, alors évidemment, on est partagé entre le fait de dire pourquoi lui serait pas soumis à ce que tous les autres seraient soumis, et en même temps, vous savez, alors là, il faudrait demander à Anne-Charlène. Il a fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que ce recours, il devrait pourrait pas être suspensif par rapport à la décision de lui enlever la Légion d'honneur. C'est au moins une question qu'on peut se poser en termes de droit, j'en sais rien.
Aujourd'hui, en termes de droit,
je pense qu'on pourrait se poser.
Alors non, ça n'est pas le cas, et c'est normal que ça ne soit pas le cas, parce que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas d'autorité de la chose jugée en France. En réalité, les arrêts qu'elle rend sont des arrêts plutôt moraux, c'est-à-dire que c'est à la France de choisir si oui ou non elle décide d'appliquer, mais ça n'a aucune valeur de... ça n'annule pas une décision de cour qui lui est contraire. Donc ça n'a aucune force juridique, donc c'est pour ça que ça n'a pas d'effet suspensif sur une décision, puisque... toutes les voies de droit ayant été épuisées. Alors, je vais rappeler quand même quelque chose, c'est qu'on dit souvent que c'est quelque chose qui émane de Emmanuel Macron, oui. Que ça a été signé par le président de la République, c'est complètement faux. Hein. En réalité, c'est le grand chancelier qui doit s'en occuper, c'est ce qui a été fait.
D'ailleurs, et Emmanuel Macron avait dit qu'il était plutôt contre.
Voilà, mais parce que, en fait, il n'était pas compétent.
Assez commode, donc, ce qui était assez commode
pour lui. Il n'était pas compétent, donc en même temps, ça réglait le problème. Je termine juste sur le fait que c'est une décision dite de droit, c'est-à-dire que l'administration a compétence liée, on est... Voilà, c'est d'office, ça se passe à partir du moment où vous avez cette condamnation. La déchéance est de droit, elle est acquise en réalité. Et d'ailleurs, la décision est très bien motivée, elle rappelle le texte et elle l'applique tout simplement.
Ah oui, parce que j'allais vous poser la question, c'est pas Robert une décision Ménard. De justice.
Non.
C'est pas un tribunal qui décide ça. Je sais pas comment ça marche, la Légion d'honneur, mais c'est un règlement intérieur d'une certaine
façon. C'est un ordre.
Voilà, il pourrait changer sur ce point-là s'il décidait de dire, tant que la Cour européenne des droits de l'homme ne s'est pas prononcée, on décide rien. Écoutez, le nombre de fois où on s'abrite derrière les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.
Mais on n'est même pas obligé de les appliquer. On n'est même pas obligé de les appliquer. Je crois que ça aussi, on maximise un petit peu l'effet de la Cour européenne des droits de l'homme sur la vie nationale. En réalité, tout cela est une décision du législateur français. La Cour européenne des droits de l'homme n'a aucune autorité sur les juges français.
On a une autre question, c'est celle de Denis à Sens qui nous envoie ceci au 64-900. Il dit, la Légion d'honneur, il faut rappeler qu'il y a plusieurs étapes, la nomination, la promotion, l'élévation... plus un degré supplémentaire spécifique pour les présidents de la République, oui. Avec le collier de grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur. Une dégradation pourrait être envisagée sans descendre en dessous d'officier. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'il émet, propose.
Oui, alors la dégradation, elle existe. D'ailleurs, en réalité, il y a toute une échelle de sanctions dites disciplinaires, mais là, on est au-delà, en réalité, de ça. C'est-à-dire que c'est dans le règlement intérieur, justement, de la Légion d'honneur, eu égard au terme, d'honneur et de dignité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la condamnation pénale est ferme et définitive et que vous êtes condamné à du ferme sur une certaine durée, eh bien on considère que ça dégrade l'honneur de la fonction et qu'en quelque sorte vous n'avez plus le droit, voilà, c'est une fonction de droit, ça se perd d'office.
Nicolas Sarkozy qui a eu un avocat peut-être un peu inattendu ce matin, c'était Jordan Bardella qui était l'invité d'RTL Matin.
Cette décision me choque. J'ai beaucoup de désaccords avec Nicolas Sarkozy, mais Nicolas Sarkozy a été président de la République. J'ai le sentiment qu'il y a une volonté d'humilier Nicolas Sarkozy. Mmh. On peut combattre juridiquement, politiquement quelqu'un, mais je crois qu'il ne faut pas oublier non plus les services qui ont pu être rendus à la France et à la République française.
Et il évoquait notamment, Jordan Bardella, son rôle à Nicolas Sarkozy lors de la prise d'otage Human Bomb, je crois que c'était en 93 ou quelque chose comme ça, où il était allé lui-même négocier avec le
preneur d'otage.
En tant que maire de Neuilly à l'époque.
Je sais que je serais profondément blessé si ça devait m'arriver.
Ah oui?
Je me dis, oui, bien sûr.
C'est infamant comme décision?
Moi, quand j'ai eu la Légion d'honneur, j'ai tout un tas de mes copains, vous imaginez la génération de mes 68, en disant, oh, tu vas quand même pas la recevoir et tout. Vous savez, moi, je l'ai reçue, puisque tu la portes sur moi là, à l'instant. Pourquoi? D'abord, parce que je me suis rappelé d'un truc tout bête, qui va vous paraître un peu gnangnan. Je me suis dit, si mon père était vivant, il n'aurait pas compris que je dise non. Mmh. C'est aussi bête que ça. Et je l'ai évidemment, c'est un honneur, la Légion d'honneur. Et je sais que c'est quelque chose qui me blesserait. Alors je pense à ça, comme je vais être traîné en correctionnel, vous savez, cette histoire d'OQTF et tout. J'avais pas pensé à cet aspect des choses. Et je sais que moi, je serais un peu honteux. Que ça m'arrive.
Après, il y a quand même des choses, alors sans prendre position ni pour un côté ni pour l'autre. Nicolas Sarkozy donc n'a plus la Légion d'honneur en application stricte d'un texte, mais on peut aussi constater que Vladimir Poutine est toujours grand croix de la Légion d'honneur, qui est le grade le plus élevé.
Alors, on pourrait même d'ailleurs citer toute une liste de dictateurs. Je pense que ça doit être le cas de Ceausescu dans l'histoire. Il y en a. Je crois qu'il y avait un article qui avait été fait. Je vais répondre en juriste. Là, on est dans le cadre de l'application d'une décision de justice qui est dans le droit international, c'est-à-dire qu'il sont justiciables de leur cour ou de la Cour pénale internationale, mais pas de notre droit. Donc c'est pour ça que la déchéance n'a pas lieu d'office, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un tribunal français qui s'est prononcé sur le cas de Vladimir Poutine. Donc on n'a pas l'obligation, ni même la possibilité de lui retirer de droit, comme c'est le cas. Là, ça pourrait être une décision politique de le dégrader. Par contre, c'est tout à fait possible. Mais c'est pas la même application des choses, parce que c'est pas un juge
là, pour
français.
Le coup, ça serait Emmanuel Macron de dire il faut le dégrader. D'accord.
Robert, mais surtout en termes de morale, vous avez raison, Thomas. Je veux dire, tu te dis entre Poutine et Nicolas Sarkozy,
oui, mais c'est
enfin,
pas la même
il
n'y
a
chose.
Pas photo.
C'est
je
pas
sais
la même
que
ce n'est
pas la même chose. Mais enfin, on peut aussi juger de temps en temps que le droit n'explique pas tout et avoir une autre mesure. Moi, on retirerait la Légion d'honneur à Poutine, j'applaudirais des deux mains. Vous aussi, au fond, d'ailleurs.
Oui. On n'est
pas toujours d'accord, le débat continue. Là, vous êtes d'accord.
Sauf
on n'est pas toujours d'accord, le débat continue dans un tout petit instant. On va bien sûr se pencher sur cette guerre entre Israël et l'Iran. Quelle place pour la France? Quel rôle pour Emmanuel Macron? On en débat dans un instant.
RTL Matin, c'est jusqu'à 10h.
À tous ceux qui se retrouvent entre potes quand c'est soir de match, mais faites pas trop de bruit, il y a la petite qui dort à côté. Et à ceux qui vont devoir apprendre à crier sur l'arbitre, mais en chuchotant. Mais la faute là! Carton, monsieur l'arbitre! Oh. Dès mardi, Intermarché vous offre 80% en avantage carte sur tous les produits de la marque Pampers. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 juin, des 30 euros d'achat et dans la limite de 40 euros, modalité sur intermarché.com.
Le décès de ma mère, c'était un moment difficile. Et quand j'ai dû m'occuper des obsèques, j'ai choisi Rock Éclair. J'ai pu les joindre le soir même au 3024 et l'agence la plus proche de chez mes parents m'a rappelé immédiatement. Ils m'ont aidé à préparer la cérémonie qu'elle aurait voulu. C'était un beau moment. Après les obsèques, ils ont même pris en charge toutes les démarches. Les courriers, la clôture de tous les comptes et des abonnements. Ça nous a vraiment soulagés. Et pour les prix, c'était clair. Est très correct.
Rock Éclair, là, pour vous, dans près de 500 agences en France et au 3024.
Cet été, partez en vacances avec votre prof d'anglais préféré. Grâce au cahier de vacances Let's Go on Holiday de Monsieur Prof, révisez l'anglais en vous amusant. Jeux, devinettes, exercices et bonus audio pour progresser sans stress. Let's Go on Holiday avec Monsieur Prof pour des vacances à l'anglaise et 100% fun. Aux éditions Larousse.
On n'est pas toujours d'accord. Le débat du 9-10.
On n'est pas toujours d'accord. Le débat continue sur RTL avec Anne-Charlène Bézina, politologue et constitutionnaliste, et Robert Ménard, le maire de Béziers. On est très inquiet de la situation en ce moment entre Israël et l'Iran. Et écoutez ce qu'en disait tout à l'heure Frédéric Ancel, le chercheur et spécialiste de la région. C'était à 8h15 au micro d'Amandine.
C'est une guerre, hein, je le dis depuis plusieurs jours, c'est-à-dire que aujourd'hui, là, l'enjeu de cette guerre, c'est la capacité nucléaire iranienne, oui ou non. Donc les Iraniens peuvent bien continuer à frapper des immeubles civils en Israël, mais à la fin des fins, si ça se poursuit, l'Iran aura perdu sa capacité nucléaire immédiate. Et c'est ça, tout l'enjeu de la guerre.
C'est une guerre, dit sans ambiguïté Frédéric Ancel. Cette guerre, faut-il la mener, Robert Ménard, faut-il la mener jusqu'à faire tomber les mollahs? Faut-il la mener pour la France aux côtés d'Israël, le cas échéant?
Écoutez, c'est facile à dire quand tu es ici à Béziers, tranquillement installé. Je suis pas à Jérusalem ou à Tel Aviv ou à Téhéran à recevoir des bombes. Donc, je fais un peu attention à ce que je dis. Mais oui, dans l'absolu, enfin, attends, Israël a raison. Enfin, attendez, comment vous voulez aujourd'hui tolérer un État à côté de vous? Un État, c'est-à-dire un gouvernement, pas le peuple iranien, ça n'a rien à voir évidemment avec ça. Un État qui ne rêve que d'une chose depuis qu'il est en place, que les mollahs sont en place, de détruire Israël. Je veux dire, vous discutez avec des gens, c'est comme avec le Hamas, vous discutez avec des gens avec un minimum de base d'accord. Vous pouvez vous faire la guerre, vous pouvez avoir des divergences, y compris territoriales, mais vous appelez pas à détruire, à réduire à néant, réduire en tas de cendres Israël. Et avec l'histoire des Juifs, vous comprenez cette attitude. Moi, j'applaudis à chaque dignitaire iranien tué et assassiné. Je vous le dis, j'applaudis tous les jours. Il y en a encore eu un hier soir, je trouvais que c'était une bonne nouvelle.
Anne-Charlène Bézina.
Je crois que les objectifs ont assez bien été rappelés par le président de la République quand il a fait son allocution de vendredi soir. C'est-à-dire que, au fond, c'est quelque chose de défensif de l'ordre pour Israël. C'est-à-dire qu'il y a deux buts, hein, en réalité, dans le discours de Netanyahou, on l'a entendu. C'est à la fois cette considération par rapport au nucléaire qui est une menace existentielle pour Israël. Et, au fond, on se rend bien compte que ça peut aller plus loin avec cette idée de faire tomber le régime puisqu'il s'est adressé directement au peuple iranien en disant on va vous libérer. Donc, là, je ne sais pas jusqu'où la France.
Le peuple iranien qui, rappelons-le, subit hein, le régime.
Subit, bien sûr, le régime. Voilà.
Donc, et les femmes.
Il y a un affaiblissement de ce régime aussi qui, moi, me fait craindre beaucoup de choses parce que je crois qu'on ne peut pas être plus en danger que face à un régime qui est crépusculaire parce que justement, c'est là que toutes les capacités militaires sont généralement déployées. Mais au fond, oui, il y a quelque chose d'existentiel pour Israël et de l'ordre de la sécurité pour l'Europe aussi. Hein. Le président de la République l'a rappelé. Et voilà, c'est une position qui a toujours été celle de la France. Donc, il y a pas réellement de nouveauté dans cette guerre-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fond, on a quand même un conflit qui était larvé depuis 30 ans par rapport à cette situation du nucléaire iranien.
Nous disait tout à l'heure Frédéric Cancel, et je vous redonne la parole, Robert Ménard, c'est qu'en fait, il faut dissocier. Parce qu'on peut se dire, Emmanuel Macron change complètement de ton, notamment par rapport à Benjamin Netanyahou. Il avait eu des mots très durs par rapport à l'attaque contre Gaza, à cette offensive. Là, ce sont deux choses différentes, en fait. D'un côté, il y a Gaza, et d'un côté, il y a l'Iran. Robert Ménard.
Oh oui, vous êtes bien bonne avec...
Non, j'essaie de décrypter.
Non, je plaisante. Pourquoi ? Parce que quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait des changements de pied quand même. Je veux dire, attendez, vous avez annoncé le salon du Bourget. Je vous rappelle, alors c'était pas au Bourget, c'était l'an dernier. Il avait interdit aux autorités israéliennes de présenter leurs armements en France. Je veux dire, le chef de l'État, il change tous les 15 jours d'opinion sur ces questions-là. On peut pas dire qu'il a une espèce de ligne conductrice.
Et c'est un problème.
C'est le moins. Ben oui, bien sûr que c'est un problème. Je veux dire, au Moyen-Orient, qui est notre allié naturel ? Mais c'est Israël. Qui défend les mêmes valeurs que nous ? Mais c'est Israël. À qui on doit notre solidarité ? C'est Israël. Enfin, tenez, moi, j'étais le patron de Reporters sans frontières pendant 20 ans. Le seul endroit où il y avait de la liberté de la presse, et encore aujourd'hui, c'est Israël. Aujourd'hui, Israël.
Il faut dissocier ce que fait Israël, sans doute avec l'Iran, et ce que fait Israël à Gaza. L'ambassadeur d'Israël en France était l'invité d'RTL Matin vendredi et on lui faisait remarquer que les journalistes n'ont pas accès à Gaza et que les pires exactions se produisent là-bas sans le moindre témoin.
Ils ont tort.
Et ça, c'est pas le signe d'une démocratie, Robert.
Mais attendez, oui, mais enfin, attendez, vous voulez comparer ? Vous avez beaucoup d'images, vous, en ce moment, sur Téhéran, où vous avez des images sur Jérusalem et Tel Aviv.
Non, mais après, on ne peut pas considérer que c'est forcément un changement de pied si on distingue une diplomatie en fonction des régions. Je veux dire, il peut y avoir aussi quand même quelque chose de l'ordre, quand on a un discours humanitaire, quand on a toutes les questions d'action humanitaire qui sont impossibles, qui sont inaudibles en Israël, un chef de l'État est quand même obligé de condamner cela. On est dans quelque chose de presque lié pour la part du président de la République. Il l'a rappelé d'ailleurs, il a dit, quelque part, on ne peut pas distinguer justement ce qui se passe à Gaza de ce qui se passe en Iran. Il me semble que c'est deux conflits très différents dans l'histoire d'ailleurs.
Ben, je suis d'accord avec vous, à la seule différence près, qu'est-ce qui devait se tenir dans les jours à venir, on ne sait pas si ça va se tenir, c'était cette réunion à New York avec l'Arabie Saoudite. Et qu'est-ce qu'il avait tiré comme conclusion politique ? Vous pouvez dire, moi je ne suis pas proche de M. Netanyahou, je condamne une partie de sa politique, ça n'a rien à voir avec le fait, comme s'apprêtait à le faire le chef de l'État, de reconnaître la Palestine comme un État aujourd'hui. Là encore, c'était un drôle de tempo. Aujourd'hui, reconnaître un État palestinien...
Sous condition, Robert Ménard, c'était pas une reconnaissance qui valait non plus blanc-seing. C'était sous condition de démilitarisation, sans le Hamas, donc ça revient un peu à ne pas la reconnaître, au fond.
Politiquement, c'était une espèce de menace qu'il était en train de brandir depuis des semaines et des semaines. Oui, il y a de la part du chef de l'État des errements que je ne comprends pas souvent, et je crois que je ne suis pas tout à fait le seul.
Je voudrais revenir à la situation entre Israël et l'Iran. L'histoire récente de ces 20-30 dernières années nous a appris que quand on faisait tomber un régime, ce qui venait derrière n'était pas forcément mieux. Ce que rappelait d'ailleurs Jordan Bardella, l'après Kadhafi en Libye n'est malheureusement pas plus brillante, l'après Saddam Hussein en Irak non plus. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui doit nous alerter aussi ?
Moi, je crois qu'il faut faire attention aux discours réels et aux discours factices. En réalité, on sait très bien que l'Irak, c'est cette fameuse théorie de l'axe du mal qui a été fomentée en réalité par les Américains à la suite des attentats de 2001, et le nucléaire est un prétexte, alors que ce n'est pas le cas pour l'Iran. Ici, on est quand même sur une vraie menace pour Israël.
Il me semble qu'il y a quand même une confusion des objectifs,
qu'il faut faire attention de ne pas plaquer d'un conflit à l'autre. Et je crois que c'est aussi quelque chose qu'on a l'habitude de faire aussi dans nos analyses, c'est de considérer que tous les conflits se valent. Attention, il y a des histoires qui sont séculaires et il faut faire très attention à manier.
Encore un mot, Robert Ménard.
Oui, Anne-Charlène a raison. Pardon, l'intervention en Irak, vous vous rappelez, c'était les armes de destruction massive. explosifs qu'on n'a jamais trouvés. Là, le nucléaire en Iran, il existe. La deuxième grosse différence, c'est que les Israéliens, jamais ont dit « on va envahir ». L'Iran, c'est ce que les Américains ont fait avec l'Irak. Alors, attention, les comparaisons ne sont pas raison. Ensuite, il y a quand même, aujourd'hui, juste, je voudrais ajouter, moi, je connais un certain nombre d'opposants iraniens qui sont tellement désespérés des mollahs, de leur politique, de leur poids sur la société et tout, qu'ils sont prêts à applaudir à ce que font les Israéliens en se disant, si c'est le prix à payer pour se débarrasser des mollahs, pardon, on va payer ce prix-là.
Merci à tous les deux. Vous restez avec nous dans un instant. Pascal Obispo arrive en direct sur RTL et avec lui, c'est un peu de Johnny Hallyday qui débarque. Restez avec nous.
Amandine Bégaud et Thomas Soto, c'est RTL Matin. On en parle.
Pourquoi passer à la mobilité électrique à l'approche des vacances d'été? On en parle avec Camille, conseillère EDF. Bonjour.
Bonjour. Eh bien, parce que choisir l'électrique, c'est vraiment faire des économies. En fait, la recharge de votre voiture électrique vous coûtera 4 fois moins cher que de faire un plein d'essence. Et c'est quand même plus agréable de le faire depuis chez vous plutôt que d'aller à la station de service.
Ça, c'est sûr. Merci, Camille.
Source R&D EDF, mars 2025. Plus d'infos sur edf.fr/mobilité-électrique. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Carrefour. Chez Carrefour, pour 2 boîtes de glace nuit achetées, la troisième est offerte. Et c'est valable sur toutes les boîtes de glace nuit. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'au 23 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Au rayon surgelé, selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Faustine Bollard sur RTL. Héros.
On se retrouve ce soir à 20h sur RTL pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre sexualité. Un sexologue sera avec nous, que vous soyez jeune, que vous soyez un senior, que vous soyez en couple ou que vous vous battiez contre une maladie. On va répondre à toutes vos questions, encore une fois, sans aucun tabou, avec une vraie parole libre et authentique. À ce soir à 20h.
Vous êtes près de 20 millions à écouter RTL chaque mois. Merci. L'invité du 9-10.
Personne ne peut oublier son nom, personne ne peut oublier Johnny Hallyday. Il aurait eu 82 ans hier et pour en parler, pour l'évoquer, pour lui rendre hommage en musique, on a le plaisir de recevoir Pascal Obispo. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue.
Merci.
Peut-être une impression qui est très largement partagée par beaucoup de Français. Ça fait presque 8 ans qu'il est parti de Johnny Hallyday. Pourquoi il nous manque encore tellement? Pourquoi il manque à nos quotidiens, même quand on ne le connaissait pas?
Disons que il était comme un point d'ancrage en fait pour tous les gens. Il a traversé je sais pas combien de décennies. J'allais dire nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents, nous-mêmes, nos enfants. Et c'était un point d'ancrage de nos vies, de tout ce qu'on a pu faire, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a, des personnes qu'on a rencontrées, des enterrements, les mariages, les amours, les divorces, les naissances. Johnny a toujours été là, c'est assez particulier, sans qu'on le sache, dans les supermarchés ou chez soi, ouais. N'importe où. Johnny était présent sans arrêt. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de travailler avec lui en 97 pour faire un album avec plusieurs chansons dont
Allumer le feu,
dont le fameux Allumer le feu, qui est devenu une expression très connue. Voilà. Et c'est vrai que c'était pour moi quelqu'un de très important. Et je
Il vous manque à vous aussi.
Oui, il me manque, effectivement. Ouais. Moi, c'est le premier album que j'ai produit. J'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire. Et j'ai rencontré un homme un homme de, je sais pas quel âge il avait, 56 balais. Moi, j'avais 32 ans. Et en fait, c'est lui qui avait 16 ans. Et c'était moi l'adulte dans le studio. Et pourtant, j'étais le minot. Et c'était vraiment assez exceptionnel. Je le considérais vraiment comme un père. Parce que un premier album, Johnny Hallyday, c'est un petit peu compliqué. J'ai eu cette chance-là de pouvoir le faire. Ça a été assez difficile, mais on est tout de suite devenus très, 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 très proches et pendant quelques temps. Mm-hmm. Donc, c'est... Voilà. Et musicalement, il m'a appris pas mal de trucs. Il m'a beaucoup appris sur le métier. Il m'a beaucoup appris aussi sur les gens, sur l'amitié, sur l'entourage, sur... et puis tout le reste. Et puis, malheureusement, il n'avait pas forcément... comment dire, on n'a pas forcément le même caractère, et c'était quelqu'un de profondément gentil, humble et surtout très 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 drôle, et surtout il était intelligent, il voyait tout, mais il avait un trait de caractère qui faisait que, bon, bah, il laissait faire un peu les choses trop autour gentil. De lui. Lui?
Oui,
trop gentil? Ah, bah oui, trop gentil.
Ouais.
Trop gentil. Il adorait foutre le bordel, la zizanie, mais ça, c'était c'est un truc de rock'n'roll. C'est ce qu'on a quand on commence la musique. On est un peu rebelle, par rapport aussi à tous les icônes qu'on a aimées, dans le rock'n'roll, dans le cinéma, de Marlon Brando à Elvis Presley. Mais sinon, c'était un mec profondément attachant, vraiment.
C'est marrant, quand vous en parlez, on a l'impression qu'il est là, Johnny Hallyday. Alors, vous avez sorti un titre inédit hier pour lui rendre hommage. La chanson s'appelle Appelle-moi Johnny, que vous avez bien voulu nous interpréter en direct tout de suite dans ce studio d'air.
Un petit extrait. Un jour, ma route a croisé celle d'un homme qui m'a parlé de lui. Ses rêves, ses envies, sa solitude aussi. Aujourd'hui, il est parti et il me manque comme un frère. Je me souviens comme si c'était hier, la première fois où il m'a dit. Appelle-moi Johnny, comme si j'étais un ami, une vieille connaissance, peut-être un ami d'enfance. Appelle-moi Johnny. Quand ça va pas la vie, que tu cherches une présence, quelqu'un à qui faire confiance. Appelle-moi Johnny. Appelle-moi Johnny. Comme ça, comme un copain qui te demande rien parce que le silence suffit. Appelle-moi Johnny. Quand t'as le cœur qui va pas bien, non. On peut se prendre la main sans même attendre un merci. Appelle-moi Johnny. J'étais tout seul, j'étais comme toi. À me croire toujours incompris, tu sais Johnny. Alors que j'attendais cette voix pour savoir enfin qui je suis. Appelle-moi Johnny. Appelle-moi Johnny. Comme quelqu'un de ta famille. Celui qui ne juge personne quand tout le monde l'abandonne. Appelle-moi Johnny. Sache que c'est pour la vie. Qu'entre nous tous se pardonne. Qu'importe comment on se prénomme. Il m'a dit, moi, c'est juste Johnny. Appelle-moi Johnny.
En direct de sur RTL, Pascal Obispo, appelle-moi Johnny.
C'est ce qu'il vous a vraiment dit. Comment la première fois?
La première fois, c'était sur un bateau et c'était à New York. J'ai eu la chance de voyager dans le Concorde. On fumait encore des cigarettes dans le Concorde à l'époque. et j'ai dû arriver sur son bateau et puis en discutant avec lui, je lui dis excuse-moi, mais comment il faut que je t'appelle? Et voilà, c'est tout. Comment je dois t'appeler? Monsieur ou Jean-Philippe? Enfin, je savais pas toi. Et il m'a dit simplement, appelle-moi Johnny.
C'est lui la première fois, on doit être impressionné.
J'étais impressionné. Non, j'étais plus impressionné la première fois où il a fallu que je lui dise les choses.
C'est-à-dire
qu'il fallait pas qu'il me la fasse à l'envers. Moi, j'étais engagé pour enregistrer un disque. Mmh. C'est vrai que Johnny, il est un peu turbulent. C'était un adolescent. Voilà, il était rock'n'roll. Et puis il pouvait tirer sur la ficelle pour embêter un peu. Mais c'était surtout pour juger, pour savoir si qu'il avait en face.
Donc, il fait un test.
Il fait un test. Il sent, il sent le cul, quoi.
D'accord. Mais c'est pas comme un ado qui ferait ça juste.
Il voulait sentir les gens parce qu'il avait tellement de courtisans autour de lui. Et d'ailleurs, ça s'est passé jusqu'à la fin. Il essayait de toujours comprendre avec qui il était. Donc, à un moment donné, il m'a testé et puis il a compris que j'étais en fait quelqu'un qui allait lui dire la vérité parce que je l'ai chopé, quoi. Je lui dis maintenant tu me...
Et ça, il acceptait pour le coup?
À partir du moment où on dit la vérité à quelqu'un qui tire sur la ficelle et qu'on le regarde en face dans les yeux, ça se passe bien. Par contre, on balise un peu, c'est quand même Johnny. Hein, son plus grand jeu, c'était se mettre en face de vous, mais comme ça, nez à nez... Et ne pas bouger et rien dire comme ça. C'était son plus grand jeu. Il finissait par un clin d'œil et boire un coup, quoi.
Quelque chose de très animal. J'imagine,
Plus qu'animal.
J'imagine qu'il y avait peu de monde qui osait lui dire les choses.
Bah, je pense que ça a été le problème
de sa vie.
Voilà.
Ouais. Le clip, Appelle-moi Johnny, est sorti. Il y a Laura Smet.
Voilà, réalisé par le meilleur ami de Laura, Nicolas Boislamy.
Et elle joue dedans.
Alors en fait, je lui ai chanté la chanson l'été dernier, parce qu'on est voisins au Café Ré, et puis on est amis depuis très très longtemps. Et elle a tout de suite été très très émue. Elle me dit, je veux absolument jouer dans le clip. Donc on a tout organisé au moment où il fallait faire les choses. Elle a appelé son ami Nicolas Boislamy. On a été à Arles chez l'ami Chico. Mmh. Chico et Gypsy Kings, qui nous a prêté son enclos, qui nous a prêté sa salle, la salle qu'on voit avec toutes les lumières. Là, c'est la salle où ils chantent tous les ans. Enfin, ils chantent tout le temps. Avec les amis Gypsy. Voilà, d'ailleurs, ils m'ont offert une très très belle guitare.
Que vous portez en
médaille.
Ouais, bien sûr.
Qu'est-ce qu'elle a de Johnny, Laura?
Qu'est-ce qu'elle a de Johnny? Elle a quasiment ses pieds, ses yeux, déjà. On en a parlé hier. Mais c'est surtout ce côté sauvage.
Ouais.
Elle est sauvage comme lui. Voilà. C'est comme ça. Elle est assez cash. Non, mais c'est vrai. C'est ce côté sauvage. C'est pour ça que le cheval dans le clip, tout ça. Enfin, il y a une espèce de parallèle entre le cheval et elle. C'est assez amusant. Mais c'est vrai que Laura a gardé ça de son père et c'est. Il faut qu'elle travaille dessus d'ailleurs. Beaucoup.
Et Laetitia, elle a écouté la chanson ou pas?
Je ne sais pas.
Non? Vous ne voulez pas demander son avis ou ça se fait sans...
Qui ça?
Laetitia.
Je ne sais pas.
C'est l'autre camp. L'autre
mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle avec des gens positifs.
Bon, on a tous dans nos vies des chansons de Johnny qui nous ont plus marqué que d'autres. Et là, on va vous demander quelque chose de compliqué. Quelle est votre chanson de Johnny préférée?
En fait, on m'a demandé ça et moi j'aime bien les vieilles chansons qui vont jusqu'au milieu des années 70. Donc moi j'aime bien Quand revient la nuit ou Si j'étais un charpentier, des choses comme ça. Vous avez un truc comme ça?
La nuit.
Là où il avait la plus belle voix.
Si j'étais un charpentier.
Ouais.
Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, mes mains seraient sèches.
Ça tout de suite, c'est toute une époque.
Disons que c'était une époque où Johnny n'était pas devenu le Johnny Hallyday, mais qu'il était l'idole des jeunes.
C'est cette époque-là.
C'est après, parce que ça, c'est l'époque un petit peu 70. Et je crois que dans les albums, bon, moi qui suis, entre guillemets, un petit professionnel des enregistrements, c'est vrai que là, il avait une voix exceptionnelle. Mmh. Exceptionnelle. Il avait tout, la chaleur, le... Bon, et après, il a eu cette puissance de voix qui a fait de lui le sphinx, quoi.
Quand il faisait ça. Il y a l'idée ensemble sur scène.
Ah oui, mais c'est sûr que quand je chantais avec lui. Alors moi, je me souviens, j'ai une petite anecdote en fait. La première année que j'ai chanté en 98, j'ai fait les trois stades de France. Bon, j'ai chanté, c'est sûr que le lendemain, on a écouté les bandes, ça, c'était pas possible. Et en 2012, il me redemande de venir chanter et j'ai fait la balance avec lui. Je suis rentré chez moi et je me suis dit, c'est bon, là, maintenant. C'est super, écoute. Je te jure, j'ai eu la voix cassée pendant une semaine, j'ai écouté la bande le lendemain, c'était toujours l'exorciste. C'est horrible. C'est-à-dire, Johnny, il avait une puissance de voix, c'est incroyable, il n'y a personne qui peut l'égaler. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous manque aussi, parce que d'abord, ses spectacles, même si certaines personnes veulent faire des spectacles comme ça, il faut aussi avoir Laura. Et puis l'humanité, et puis il faut aussi avoir ce rapport avec le public qui n'a jamais trahi.
Ah oui, c'est vrai qu'ils sont avec lui là.
Mais oui, là, c'est là que vous chantez ensemble. Appelle-moi Johnny, c'est le titre de cette chanson donc qui est sortie hier.
Exactement, pour l'anniversaire de... Exactement.
En live sur RTL. Vous restez avec nous, Pascal Obispo.
Si vous voulez.
Alex,
un peu détente,
les blagues arrivent.
Ah, très bien.
Thomas Soto et Amandine.
À tous ceux qui n'aiment pas spécialement se lever le matin, ni aller au travail, ni cuisiner tous les jours, ou se brosser les dents. Bref, à tous ceux qui trouvent que le quotidien, ça n'est pas assez bien pour être cher. Bah oui, je suis désolé, c'est surcoté le quotidien. Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas. Ah bah voilà! Comme le paquet de 4 liégeois chocolat pâturage, une marque Intermarché à 1,09€ seulement. Et c'est aussi sur notre appli.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
400 grammes, soit 2,73€ le kilo, transformé en France. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Vous êtes perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
T'as de la chance, maman. Le plus fort, c'est mon père.
Je vous revois et vous avez perdu.
C'était Linda Lemay qui chantait Le plus fort c'est mon père. C'était la fête des pères, évidemment, hier. Ce que le prince Albert de Monaco appelle une grosse journée. Une journée où, une fois de plus, Xavier Dupont-Ligonnès s'est retrouvé sans cadeau, le malheureux. Et une journée qui, pour moi, comme chaque année, est un peu spéciale, voire tendue. Je vis avec la crainte qu'on sonne à ma porte et qu'un petit blond, avec un œil plus petit que l'autre, vienne m'offrir un collier de nouilles. Voilà. Heureusement, la plupart de mes ex-compagnes sont ménopausées.
Oh.
Ben oui, mais à un moment, il faut que ça serve aussi.
Bonjour Alain.
Bonjour Amandine, bonjour Monsieur Obispo, bonjour, bonjour tout le monde.
Vous vouliez revenir d'abord sur Nicolas Sarkozy, qui est finalement exclu donc de la Légion d'honneur après sa condamnation définitive dans l'affaire des écoles.
Oh non, c'est pas. Alors ça, je suis désolé, je m'en pardonne. On va couper ce son. C'est, je bosse avec un nouveau co-auteur. C'est lui qui a eu l'idée. Il s'appelle Dominique de Villepin. On va recommencer. Amandine, relancez-moi. Excusez-moi.
Donc Nicolas Sarkozy est finalement exclu de la Légion d'honneur après sa condamnation définitive dans l'affaire des écoutes.
Voilà. Ça, c'est mon autre nouveau co-auteur, c'est Brice Hortefeux. Écoutez, donc voilà, en gros, on va être entre les deux. Nicolas Sarkozy n'a plus sa Légion d'honneur. On a passé son honneur au Karcher. Et c'est dégueulasse d'avoir fait ça parce que c'est dans le cadre de l'affaire des écoutes qu'on a été condamné. Donc c'est clairement à Paul Bismuth qu'il fallait retirer la Légion d'honneur. Et on imagine le terrible choc que ça a dû être pour Nicolas Sarkozy de devoir rendre sa Légion comme ça, de ne plus appartenir à cette liste de l'élite français composée notamment de Christian Clavier, Marlène Schiappa, ou Francky Vincent. Courage à lui.
C'est un grand sensible.
Oui, moi je suis ému.
Politique française encore, selon un nouveau sondage, François Bayrou est devenu le Premier ministre le plus impopulaire de la 5e République avec seulement 17% d'avis favorables.
Pas terrible. Hein. Et je peux vous dire que François Bayrou a beaucoup de chances de jamais avoir fait ses études à Bétarame parce qu'avec un bulletin pareil, ce serait fait rosser dans les caves, je pense.
Passons à l'international. Le conflit entre Israël et l'Iran s'intensifie.
Alors, il y a une bonne ambiance dans le monde. Je pense que vous êtes un petit peu au courant. Tous les pays du monde doivent prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Moi, je suis jeune, hein, mais si on me dit que l'ambiance actuelle ressemble à 1938, je ne serais pas complètement surpris. Hein, ça m'angoisse.
Alors, il ne vous a pas échappé que pour trouver une solution, Donald Trump s'est dit ouvert à une médiation dans le conflit entre l'Iran et Israël. Ouais. Médiation de Vladimir Poutine.
Voilà, vous voyez, c'est à ce genre de détails que je sens que on est dans la mouise. Vladimir Poutine qui s'est proposé lui-même, après Trump a dit pourquoi pas, mais Vladimir qui se propose en médiateur d'un conflit armé, c'est un peu comme si on avait appelé Bertrand Cantat comme thérapeute de couple sur le procès de Stéphane Plaza. C'est pas une plus-value, c'est ça que je veux dire, quoi.
Bon, de son côté, le pape Léon XIV a appelé l'Iran et Israël à la responsabilité. Et elle a raison.
Et quoi de mieux, lorsqu'il y a un conflit entre des juifs et des musulmans, la vie d'un catholique, bien évidemment, c'est encore une bonne chose. Alors, on n'est pas à l'abri que François Bayrou propose à Netanyahou et Khamenei un conclave sur la paix dans le monde. Et après, apparemment, on s'en sort, évidemment. Bon.
Tout à fait autre chose. Un ami milliardaire du prince William est mort après avoir avalé une abeille en plein match de polo.
Oui, ça c'est, j'avoue, c'est un petit peu ridicule comme mort. Hein.
De mourir en avalant une abeille?
Ah non, de mourir en jouant polo. C'est excusez-moi, enfin... Courage à la
On termine avec Coco Gauff, la gagnante de Roland-Garros, qui a posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour dire que le trophée qu'on lui avait donné était plus petit que celui soulevé le jour de la finale.
Je sais pas si vous avez vu la vidéo, c'est-à-dire que quand elle soulève le trophée, il est grand et tout ça. Elle a ramené à la maison, c'est l'identique en plus petit. Et quelle déception, quand on t'a vendu un gros modèle et que tu dois te contenter d'une miniature. Je suis certain que la compagne de Philippe Cavrivière compatit évidemment au malheur de Coco Gauff.
Philippe, on t'embrasse.
Ouais. Parce
qu'elle
j'essaye sur la vie. Alors je me suis dit, j'en mets une petite sur Philippe.
Ça travaille sur l'illettrisme aujourd'hui.
Pascal Obispo sera en tournée, hein. 20 juillet à Manosque, 24 juillet à Surgères, le 29 juillet à Colmar. C'est la fin. Faut en profiter. Vous jouez ce nouveau titre, Rappelle-moi Johnny, là ?
Ah, je joue depuis 5 ans de date, pour la tournée correspondance. Là, il nous reste 8 dates et on aura fait 115 dates pour cette tournée.
Et alors après ?
Après quoi ?
Après, vous faites quoi ?
Là, je vais sortir des chansons. Je vais venir vous voir tous les 3 mois.
Ah, venez, on adore.
En fait, je voulais savoir de ma vie.
Qu'est-ce que vous avez fait ?
Moi, je viens d'être pris dans une galerie d'art. Parce que ma deuxième passion, c'est la peinture. Mmh. Et donc j'ai un vernissage en octobre, voilà, pour la première fois.
Et ben vous viendrez nous en parler.
Et je suis on remet une médaille. Et
les gens d'honneur ?
La veille. Ah. Non, je suis un peu jeune quand même, attends.
Les quoi
les arts et lettres.
C'est bien ça. Ouais, ça c'est chic. C'est très très bien.
J'ai déjà eu le mérite par Chirac. Là, je vais avoir les lettres par Rachida.
Et ben,
une amie.
Monsieur très important, Pascal Obispo. On va terminer avec quelques notes de musique. Tiens, Anne-Charlène, c'est quoi votre chanson de Johnny préférée, vous ?
Alors, moi, c'est Diego.
Diego.
Ouais, pour ce
Michel Berger.
Oui, là, je la trouve absolument géniale.
La voix.
Appelle-moi Johnny et Pascal Obispo, appelle-moi Courbet, Julien Courbet. Est-ce que vous
bonjour Julien.
Comment ça va Pascal?
Bah ça va, t'as pas encore dégagé Gérard Lopez?
J'étais de bonne humeur, je me disais tiens.
Ça va vous arriver. Enfin, excuse-moi Julien, mais fais quelque chose.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Qui est dans les litiges.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Mais fais quelque chose.
Je ne connais même pas le nom des villes contre lesquelles on joue.
Tant
mieux d'ailleurs, parce que ça permet.
T'as pas eu les 700 commerçants qui se sont plaints?
Ah non, là.
Qui t'ont appelé pour regarder la tête.